France Musique.
André Tuboeuf, Mémoire, une émission proposée par Lionel Esparza, réalisée par Antoine Courtin. Aujourd'hui, troisième épisode à Paris.
Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment par leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Ça fait des tas de printemps et le printemps fait l'amour. Mon couplet s'est perdu sur les bords d'un jardin. On me l'a jamais rendu et pourtant je sais bien. Les amants de Paris m'ont volé mes chansons. À Paris, les amants ont de drôles de façons. Les amants de Paris se font à Robinson. Quand on marque des points à coups d'accordéon, les amants de Paris vont changer de saison. En traînant par la main mon petit grain de chanson. Il y a plein d'or, plein de lilas et des yeux pour les voir. D'habitude c'est comme ça que commencent les histoires. Les amants de Paris se font à Robinson. À Paris, les amants de drôles de passion. J'ai la chaîne d'amour au bout de mes deux mains. Il y a des millions d'amants et je n'ai qu'un refrain. On y voit tout autour les gars du monde entier. Qui donnerait bien le printemps pour venir s'aligner. Pour eux, c'est pas beaucoup tarder pour moi demain. J'en ai collé partout dans leur calendrier. Les amants de Paris ont usé mes chansons. À Paris, les amants s'aiment à leur façon. Donnez-moi des chansons pour qu'on s'aime à Paris.
Les amants de Paris, chanté par Édith Piaf en 1948. Bonjour André Tuboeuf.
Bonjour, mais vous voyez, 1948 pour Paris, c'est déjà un peu tard pour moi. C'est en 46 que j'y suis arrivé. À la fin 46, en retard, bien entendu, parce que on dépendait beaucoup des bateaux. Je venais de Beyrouth, comme vous le savez. Et les bateaux, il n'y avait plus de sous-marins en Méditerranée parce que la guerre était finie depuis déjà un bout de temps. Mais c'était beaucoup les transports de troupes qui servaient de transport de civils. Donc on voyageait comme on pouvait. Je suis arrivé en retard. Mais vous direz, j'avais l'habitude. Ça a été une dernière adaptation. Ça sera une dernière adaptation. La dernière est la bonne. Mais il faut bien le dire aussi, la plus difficile et la plus douloureuse. Puisque voilà ce que je suis, un petit garçon élevé en Orient, grandi en Orient, qui en vérité n'a jamais vu le sol de la France, si ce n'est en vacances, deux fois pour un voyage d'été, qui ne connaît pas du tout les habitudes, que la guerre passée dans un pays où il y a du beurre, de la crème fraîche, du soleil, pas d'allemand, éloigne en quelque sorte forcément de ses camarades, de ceux qu'il trouvera comme nouveaux camarades, qui eux ont passé la guerre là. Alors, je vais arriver en Hippocagne, je n'ai pas 16 ans, je les aurai en décembre seulement. Et là, il faut que je prenne ce train-là en marche. À quoi va ressembler Louis Grand ? Et je me rappelle mon arrivée à Paris, la descente du bateau, le train de nuit pour Paris, la gare de Lyon, qui était la première image que j'avais de Paris, parce que on se réveille toujours à la gare de Lyon quand on vient de l'étranger, quand on vient de la Méditerranée. On se réveille toujours à la gare de Lyon, les tours de la gare de Lyon, c'est la première image qu'on a de Paris, avant même la tour Eiffel, en fait, c'est ça qui domine. Et le déjeuner chez notre tante Alice qui nous donnera du gigot, enfin mon frère et moi, pour nous rendre le passage à la France et à la nourriture française et à un monde de restrictions qui n'a jamais fini depuis la guerre. Il y a encore des cartes d'alimentation et tout le fourbi. Je me rappelle, comme pour goûter encore une espèce d'air de liberté avant d'être pensionnaire, je me suis arrêté au cinéma Paramount. J'ai fait le trajet à pied depuis la tante Alice, qui était à la place Clichy, jusque Louis Grand, qui est au fin fond de la rue Saint-Jacques, derrière le Panthéon. Et je me suis arrêté au Paramount pour voir un revenant avec Jouvet, parce que Jouvet, c'était important. Il fallait voir un dernier film avant de se faire boucler. Et j'ai pris, une grande goulée d'air avant de pousser la porte du concierge au 123 rue Saint-Jacques, vers 6h du soir, je pense, après mon film. Et on m'a donné un numéro de salle, j'y suis allé, et je me suis retrouvé dans une étude. Voilà, une étude. Il n'y avait plus que des pensionnaires à cette heure-là, parce que à Louis-le-Grand, il y avait des externes. Voilà, tous les cagneux étaient là, mais Louis-le-Grand était un grand, grand, grand lycée à ce moment-là, puisque il y avait encore des taupins. C'était le seul qui avait à la fois des taupins, c'est-à-dire les scientifiques, enfin, et des littéraires, les cagneux, mais qui avait aussi des agros, des colos, parce que la colo existait toujours. Enfin, la France avait encore des colonies. Elle avait encore un empire colonial à l'époque. Je croyais que j'entrais à Paris d'une certaine manière. Et en fait, j'entrais dans une espèce de coin de province française où il n'y avait en vérité que des gens venus de leur province, n'ayant pas du tout les habitudes parisiennes et l'esprit parisien. Il y avait d'ailleurs une espèce de détestation et de mépris réciproque entre les internes et les externes, enfin, qui s'ignoraient purement les uns les autres. Et les meilleurs provinciaux affluaient dans ces merveilleux lycées de Paris tels qu'ils étaient à l'époque, avec leur internat, qui est une espèce de serre chaude, où j'ai découvert la chose la plus miraculeuse du monde, moi qui cherchais purement et simplement à m'incorporer. C'est une espèce de solidarité et de fraternité laïque, partageuse, profondément amicale, pas du tout concurrentiel, et qui veut dire, voilà, on est là dans le même bateau, on va tâcher de survivre, on est là tous ensemble pour survivre. Bon, là, nous n'étions jamais qu'en Hippocagne. En Hippocagne, la hache de guerre n'est pas sortie, on ne regarde pas son voisin comme on regarderait un concurrent possible qui risque de vous prendre la bonne place au concours. On le regarde comme un copain qui, pour l'instant, est en train de s'initier et de s'habituer. Et ça fait vraiment beaucoup d'initiation en une seule fois. Et tout ce que j'avais moi comme passeport, à part ma bonne mine, enfin j'étais gentil, j'étais joli, certainement, mais enfin j'étais essentiellement gentil. Et je pense que j'étais plus gentil que je n'étais joli, je peux le dire en riant. Parce que la joliesse est un très mauvais passeport, alors que la gentillesse en est un excellent. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'on m'a accueilli en disant « il est quand même un peu perdu ». Mais à la vie d'étudiant propre à Paris, rien ne m'avait préparé et personne ne m'aurait secouru.
Un grand garçon aux yeux de charmé de mystère. Et qui dit on venait de loin, de très loin, d'au-delà des mers. Son beau regard, étranger doux, semblait connaître tout. Puis un matin, il a passé sur mon chemin. Il m'a parlé de roi de fou et de nous. Puis il dit soudain, la vérité depuis toujours, c'est d'être aimé et d'aimer en retour. Sur les flots verts, j'entendis encore de loin, de très loin, l'écho de sa voix. La vérité depuis toujours, c'est d'être aimé et d'aimer en retour.
Versant Nature Boy, chanté par Lucienne Delisle en 1948, à nouveau dans l'immédiate après-guerre. André Tuboeuf, le jeune interne que vous êtes, sort quand même voir des spectacles de temps en temps.
Ah ben, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de sortir. Je veux dire, je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a ce qu'on appelle l'air du temps. Et les chansons, c'est tout simplement dans l'air du temps. On sait que Piaf existe, ça, évidemment. Nature Boy, c'est différent parce que c'était aussi dans l'air du temps. C'est devenu soudain une espèce de traînée de poudre. C'était un chanteur américain qui a été à un moment donné le mari de Rita Hayworth et qui s'appelait Dick Hames. Et l'effet sentimental, presque magique et nostalgique que ça... Alors aussitôt les Français s'en sont emparés, bien entendu. Et moi, je suis allé un peu au Music Hall parce que, je veux dire, on avait quand même une soirée par semaine si on voulait, si on pouvait se faire ramener, enfin si on pouvait rentrer avant minuit un soir de la semaine, on pouvait sortir avec permission spéciale. Et il y avait de toute façon le dimanche après-midi. Donc très rapidement, je suis allé entendre Mon Temps parce que c'était les débuts de Mon Temps à Paris. Je pense à l'Étoile ou quelque chose comme ça. Et j'irai entendre Piaf dès que je pourrai à l'ABC. Mais enfin, la chanson, si vous voulez, on se l'inocule, on ne sait pas comment. Nous avions de toute façon, en haut du boulevard Saint-Michel, pratiquement à hauteur de la rue Soufflot, un magasin qui s'appelle je ne sais plus comment, mais on mettait des pièces dans une espèce d'appareil. Il y avait un disque 78 tours qui tombait. Il n'y avait pas encore de 33 tours même à l'époque, ni de 45 tours, ça n'existait pas. Bon, et on entendait les chansons à la mode et le brin de nostalgie dont les besoins, enfin dont les internes ont en quelque sorte besoin encore plus que d'autres, on allait se le donner là-bas, étant donné évidemment que dans l'internat, il n'y avait ni radio, ni télévision qui n'existait même pas, ni rien de semblable. Mais le plus important, ce qui me donnait l'impression que je faisais quelque chose d'important à Paris, avant d'avoir compris que les études aussi c'était important. Mais pour commencer, les études pour moi c'était quelque chose que je faisais parce qu'on m'avait dit de le faire, mais je ne comprenais simplement pas encore ce que j'y faisais. En revanche, je savais qu'en allant au théâtre, j'apprenais quelque chose dont j'avais le même appétit que je l'avais de la musique. c'est-à-dire me remplir de quelque chose, mais qui connaissait déjà ses propres résonances à l'intérieur. Je dois dire, pendant toute mon enfance, j'avais vu du cinéma et du cinéma et du cinéma, même Maison Goudlac, je veux dire, je parle pas de Beyrouth, mais même Maison Goudlac, Daniel Darieux, ça a commencé là. Bon, et Jouvet, et je voulais voir, c'était aussi bête et aussi naïf que cela, je voulais voir de près et en vrai, et sous des habits de théâtre, et avec une autre façon de s'exprimer, et en projetant des textes qui, en somme, étaient des textes classiques, c'est-à-dire qui appartenaient à mes études, les études que j'étais censé faire, des études littéraires. Je les aurais là, en chair et en os. Donc, je sais très bien quelle a été la première après-midi que j'ai passée. C'était au Montparnasse, Gaston Batty. On donnait le Deuissier à Electre d'Eugène O'Neill. Il y avait Marguerite Jamois en Electre, ou je ne sais pas quel est le nom du personnage dans cette espèce de updating que lui a fait O'Neill. Mais enfin, il y a Marguerite Jamois qui était une grande du théâtre de l'époque, qui n'a pas fait du tout de cinéma, mais qui était la patronne du théâtre, Gaston Batty. Il y avait à côté d'elle Valentine Tessier dans La Mer, enfin le rôle de Clytemnestre, et Alain Cuny, donc j'étais absolument fasciné, je veux dire, en avoir comme ça trois d'un coup, le héros des Visiteurs du Soir et Valentine Tessier, enfin qui était pour moi une légende vivante. Et je me rappelle avoir été aux places Les Meilleurs Marchés, là tout en haut à droite, à la énième galerie, qui devait être la troisième parce que c'est pas bien grand, le Montparnasse Gaston Batty. Et j'étais juste au-dessus de Valentine Tessier lorsque je l'ai vue, enfin, apprenant la mort, l'assassinat de son amant, je l'ai vue s'écrouler, s'affaisser sur elle-même contre une espèce de montant ou de portant, s'affaisser sur elle-même, et en même temps qu'elle s'affaissait sur elle-même, un cri montait de ses entrailles. Et je dois dire, j'ai eu l'expérience brutale physique du théâtre, sous les espèces physiques les plus déchirantes. La présence, quelqu'un qui est là et à qui il arrive quelque chose en ce moment même, et qui émet quelque chose de surhumain. Expérience presque limite, parce que ce genre de choses n'arrive jamais au théâtre. Mais enfin, ça se trouve comme ça, ça s'est trouvé pour moi. Et évidemment, j'ai eu tout à fait autre chose quand je suis allé entendre Jouvet, mais dès que sa saison a redémarré un petit peu plus tard dans l'hiver, je suis allé voir l'École des Femmes en me disant que voilà, j'allais apprendre Molière, mieux qu'on ne me l'apprenait en classe. Enfin, j'allais apprendre le vrai Molière, celui qui est donné par des vrais comédiens. Et timide comme j'étais, tremblant comme une feuille, j'ai attendu à l'extérieur du théâtre. Il y avait le merveilleux, le légendaire décor de Christian Bérard, avec ce mur avec ses liserons et son lierre qui s'ouvrait et qui se fermait, le jardin qui apparaissait quand l'angle s'ouvrait, et Arnolphe là avec son chapeau et sa perruque qui lui descendait jusqu'au rein, Jouvet lui-même faisant Arnolphe. C'était je veux dire magique d'intelligence, d'évidence, de culture, enfin, c'était comme si on lisait et on apprenait, on mangeait la culture comme un aliment naturel. Et je me trouvais justifié dans tout mon désir de distraction et de liberté, mais en même temps mon désir d'apprendre, en me disant « je suis à la meilleure source ». Alors, j'avais une espèce de programme que je m'étais ruiné pour acheter, enfin, qui était tout ce que Jouvet et Giraudoux avaient fait ensemble, enfin, une espèce d'album mémorial, et je me suis dit, mon Dieu, il faut que Louis Jouvet me signe ça. Et je suis allé attendre à l'entrée des artistes, et puis il y avait personne qui entrait, personne qui sortait, et à la fin, je me suis enhardi, j'ai demandé au concierge, mais enfin, Monsieur Jouvet, il m'a dit, oh, mais Monsieur Jouvet, c'est le patron, il ne sort pas, mais il ne sort pas encore, mais si vous voulez, vous pouvez aller le voir. Il a dû penser que je venais auditionner ou faire je ne sais pas quoi. Et j'ai frappé à la porte en tremblant véritablement comme une feuille. J'ai entendu la voix illustre du maître qui me répondait. Mais dans un nuage de fumée qu'il y avait dans la salle, cloué sur place en me demandant ce que je désirais. Et je lui ai dit, voilà, que j'étais un petit étudiant et que je ne lui ai pas dit que j'avais adoré ça parce que j'étais trop pudique pour dire une chose pareille qui me paraissait sentimentale. Dire, et comme j'étais très bien élevé, s'il voudrait bien avoir l'amabilité de... Voilà, en y mettant toutes les formules. Et lui, l'air tout à fait bourru, il m'a pris comme ça, il m'a signé ça. Il m'a dit, mais vous savez, si vous voulez avoir un souvenir de plus, demandez-en un aussi au monsieur qui est là-bas. Et dans le nuage de fumée qu'il y avait, je me suis aperçu que sur le divan, il y avait Christian Bérard. Et au pied de Christian Bérard, le chien de Christian Bérard, le caniche de Christian Bérard, Bérard qui avait fait tous ces décors merveilleux et qui mourra peu de temps après. Et donc, je suis reparti avec mon programme Jouvet-Giraudoux, signé par Jouvet et Bérard, et je me sentais parisien, je me sentais entré dans le monde de la culture. Ça, si vous voulez, ça donne du courage. D'ailleurs, je peux pas parler en termes de courage, parce que si c'était du courage, on ne pourrait pas, ça serait trop difficile, mais d'envie. On se dit, après tout, on est là où on doit être, et ça ira parce qu'il faut que ça aille. Comment ? On verra petit à petit.
extrait du mouvement lent du 5e concerto de Beethoven, l'empereur Arthur Schnabel, qui était au piano en 1947. Ça fait partie, André Tubeuf, je ne me trompe pas, des œuvres qui sont parmi les premières qui vous touchent musicalement dans le répertoire classique et qui vous montrent que peut-être il y a quelque chose pour vous, là, vraiment.
Mais oui, mais quand on entend Schnabel dans l'Empereur, enfin dans ce mouvement en particulier, on se dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir appris la musique pour oser l'écouter. Enfin, dire que la musique est quelque chose qui est immédiatement soluble en nous, dans notre sensibilité, dans notre mémoire, dans notre âme. Mais il faut simplement qu'on ait l'accès. Bon, et l'accès, je ne pouvais pas l'avoir. Je ne l'aurai qu'un petit peu plus tard à Louis le Grand, quand mon frère, qui était un scientifique habile, me goupillera un appareil à Galène qui marchera comme il pourra, qui fera un très, très peu d'usage. Mais enfin, qui me permettra, lorsque je serai davantage familiarisé avec l'internat, mais ça ne viendra quand même que 2 ans plus tard, n'exagérons pas. Au fond de la classe, à 11h15, en classe de thème latin, par exemple, entendre l'émission de Jean Vitold, Les Grands Musiciens, parce que c'était le seul accès par la radio, enfin, qu'il y avait à la musique classique, enfin. Ou alors, il fallait aller au concert le dimanche après-midi à Paris, mais je dois dire, je n'avais pas encore cette culture-là. Il y avait toutes les associations symphoniques le dimanche après-midi, bien entendu. Il y avait l'Amoureux, il y avait Padeloup, il y avait Cologne, il y avait le Conservatoire, il y avait au moins ces 4 concerts chaque dimanche après-midi. Mais je préférais aller au théâtre, parce que au théâtre, je pouvais voir Jouvet, je pouvais voir Cazares, je pouvais voir Gérard Philippe, j'ai pu voir Charles Dullin dans une des dernières choses qu'il ait joué, qui était l'archipel Le Noir. Enfin, tous les grands acteurs faisaient ça. Et je dois dire, en plus, c'est l'année où Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud ont fondé leur compagnie En Liberté, ayant quitté la Comédie Française, sont allés au théâtre Marigny, et il y a eu le Hamlet de Jean-Louis Barrault avec Jean-Louis Barrault, traduit par André Gide, en même temps qu'il y avait à l'Odéon un Hamlet traduit par Marcel Pagnol et avec Pierre Blanchard en Marcel Pagnol et je pense Jacqueline Pagnol en Desdémone. Mais le théâtre était aux mains de gens, et une fois de plus, pas du tout glamour, mais d'un prestige si aveuglant, d'un savoir et d'une autorité si charismatique que on avait l'impression qu'on apprenait de la bonne manière. Je me rappelle, c'était ma première année de Cagnes, ensuite un an plus tard, je suis allé au Noctambule voir les Épiphanies d'Henri Pichette, en fait, une espèce comment faut-il dire, de grands poèmes monodramatiques, mélodramatisés, avec un verbe flashant, florissant, coruscant et ce que vous voudrez d'autre, une invention verbale constante. Et il y avait 3 personnages, Roger Blin dans le fond qui faisait Monsieur Diable, et tout près de nous, pratiquement à la rampe, et leur visage contre nous, Cazares et Gérard Philippe, qui purement et simplement vaticinait. Enfin, et c'est une chose absolument, absolument prodigieuse. Enfin, c'était comme si une espèce d'invention de sorcière. Enfin, mystérieuse, une espèce d'acte poétique prodigieux nous était envoyé en pleine figure comme un jet brûlant de quelque chose. Voilà. Et je me rappelle, j'y suis allé 3 fois parce que de Louis le Grand, c'était juste en face. Je pouvais même sécher parfois l'étude du soir et retourner dans la rue de Champollion où se trouvaient les Noctambules et le théâtre où ces choses-là se passaient à l'époque. Et Gérard Philippe qui me dit, mais rassurez-vous. Quand je lui ai dit, vous savez, je suis la 3e fois, mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Il me dit, rassurez-vous, moi non plus. Il lui disait d'une façon tellement naïve et tellement évidente et tellement charmante qu'on dit, bon, on est soi-même légitimé dans le fait qu'on y va, qu'on veut en savoir davantage et qu'on ne comprend pas tout. Il y avait donc, pour moi, si vous voulez, une école de la rue par la chanson. Par ce qu'on peut apprendre sans chercher à apprendre, par ce qui entre tout seul. Et quand viendra le temps où quand même il faudra bien que je me dise, il faut que je réussisse à faire une différence avec mes copains, moi qui n'ai encore jamais fait de grec, qui a pris mon latin mal et de travers, et mon latin n'est pas si cicéronien, et c'est comme s'il fallait que je le retricote, parce que ce que j'ai appris à l'église à Zonguldak et mon tantum ergo ne me sert pas à grand chose pour faire du cicéron, quoi. Il faut que je refasse tout. Mais qu'est-ce que j'ai que les autres n'ont pas? Bon, alors je me suis évidemment pas posé la question à ce moment-là, dans ces termes-là. Mais il a bien fallu que quelque chose arrive dont moi-même je ne m'apercevais pas. J'avais vu du pays. J'en avais vu. J'avais été chamboulé. Dieu sait. J'avais appris à m'adapter et à me réadapter et m'adapter encore une fois. J'avais eu le désir de lire du beau et du bon français comme il est dans le théâtre classique. Et je faisais ce que mes camarades ne faisaient pas. J'allais au théâtre et j'allais au cinéma. J'avais une culture de cinéma et j'entretenais ma culture de théâtre. J'y passais tout mon temps libre. Donc, il fallait bien que par quelque côté, je me dise, à ma façon, j'avance. Je veux dire, toute cette école de la rhétorique et de la mémoire qu'il y avait dans les lycées d'autrefois et selon les, je veux dire, les préceptes d'autrefois, enfin dans les grands enseignements pluridisciplinaires d'autrefois où au fond il n'était question que d'éducation et de culture et pas de savoir. Je veux dire, en Cagne, à l'époque, on apprenait à tout savoir. Et c'est-à-dire, on apprenait sans avoir appris, on apprenait sans savoir. Mais quelle concurrence et quel exemple. Et quelle déconfiture quand on est en face de ça et que se dit bah « Attends, je n'ai même pas de deuxième langue vivante, j'ai fait des études absurdes, il me manque le grec de toute façon, comment vais-je faire ?» Par une espèce de magie, de cette espèce de soupe et cette espèce de marmite, on apprend par imprégnation, on apprend parce que les autres savent, on apprend à être comme les autres.
Thank you.
Un extrait du 5e concerto brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach, c'était Rudolf Serkin qui était au piano, Adolphe Busch qui menait les Busch Chamber Players, on est dans les mêmes années, toute fin des années 40. André, c'est toujours la radio qui vous découvre ceci. Hein.
C'est toujours la radio, mais alors une radio que j'ai à moi, parce que on saute ces vacances, et je vais vous dire comment je les ai sautées et comment j'ai franchi ce pas-là. Mais enfin, j'étais davantage installé comme cagneux, bien dans ma peau. J'allais présenter mon premier concours. Mon frère, lui, de Saint-Louis, était passé à l'école normale où il était physicien. Et dégourdi, il m'a fait ce poste à Galène. Et c'est à la même émission, en vérité, de Jean Vitold que j'ai eu à la fois ce mouvement lent de l'empereur par Schnabel que nous avons entendu tout à l'heure, et cette cadence du 5e brandebourgeois avec Serkin. Et je me suis dit, mon Dieu, Beethoven et Bach, deux espèces de pères fondateurs, et Schnabel et Serkin sont restés pour moi aussi, je ne dirais pas des pères fondateurs, mais comme des espèces d'anges qui, à un moment donné, sont intervenus pour me montrer qu'il y avait un chemin, qu'il y avait des œuvres qui étaient des grandes œuvres et qui étaient pourtant des œuvres écoutables et faciles d'accès, mais à partir duquel l'accès était désormais vers ce qui est sans fin, vers tout le pays de la musique. Bon, mais c'est dire que j'étais quand même mieux dans ma peau, puisque je me permettais d'écouter de la musique pendant la classe de thème latin. Donc, je me sentais déjà un cagneux de plein droit. Et j'avais réalisé un tour de passe-passe extraordinaire pour le faire, puisque j'avais emporté tous mes bouquins de grec pour m'initier, le travailler tout seul, effectivement. À Beyrouth, j'avais retrouvé le soleil, le bain militaire, les séances de plage, le tennis l'après-midi, ce qui était une nouveauté pour moi. Mais enfin, chaque jour, j'avais quand même 2-3 heures que je passais à éplucher mon grec tout seul et en notant dans un carnet tous les mots que je ne comprenais pas. Et donc, je me développais de tous les côtés à la fois, en étant encore extrêmement incertain. Et l'année suivante, je pourrais simplement, enfin, caracoler, pour ainsi dire, en tête de classe, parce que je pense que quand quelqu'un, comme je l'ai fait, se lance très tard, ayant pris le temps de s'imprégner, et ayant pris presque le temps de l'indifférence et de l'acceptation, il se produit en lui un mouvement profond de propulsion et d'accumulation de l'énergie. Et je peux presque le dire comme ça, de l'ambition. Je veux dire, je crois avoir démontré par le reste de ma vie que je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, ni qui a cherché beaucoup à arriver par quelque côté que ce soit. Mais là, j'avais vraiment une ambition, enfin l'ambition d'être à la hauteur, l'ambition de me trouver dans le groupe qui m'avait accueilli, où je m'étais intégré sans difficulté, qui m'avait ouvert les bras. Et je pense avoir vraiment eu cette ambition. J'ai jamais eu d'esprit de compétition. Mais enfin, étant là, dans le concours et dans la concurrence, maintenant il faut que ça passe, il faut qu'on gagne. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour gagner avec les armes qui m'étaient données.
Thank you.
Deux madrigaux de Claudio Monteverdi, Lasciatemi morire et Zefiro torna, c'était un ensemble presque mythique, dirigé par Nadia Boulanger avec, entre autres, Paul de Rennes et Hugues Cuenot. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée à l'écoute de France Musique et je vous retrouve avec André Tuboeuf la semaine prochaine pour la suite de ses mémoires. Ce sera le 4e épisode, La Révolution du Disque.
Et pourtant, j'attendrai ton...
À réécouter sur francemusique.fr.